Les manuels scolaires. Figurez-vous que un certain nombre d'économistes vont regarder de près l'enseignement de l'économie, mais aussi les premiers contacts qui sont pris entre les lycéens et l'entreprise à travers les bouquins, les livres, les manuels scolaires. Et c'est assez édifiant. Hein. J'ai vu des économistes, notamment un monsieur qui s'appelle Yann Kotlanem, qui est président du club Praxis. Alors lui, il a analysé les manuels scolaires. Alors c'est incroyable. Il y a un article excellent d'ailleurs aujourd'hui, page 10 du Figaro. Alors, vous voyez, premièrement, alors il dit, et après son analyse, voilà ce qu'il nous livre, hein, écoutez bien. Marx en seconde, Marx étudié en première, et Marx en terminale. Alors il dit, cet économiste, il est assez modéré quand même, mais enfin on comprend entre les lignes, est-on obligé de commencer le chapitre « Comment analyser la structure sociale » par un exposé des théories marxistes et la définition des plus-values comme une extorsion des travailleurs, plutôt que comme une simple rémunération du capital en soi légitime. Bon, voilà, tout est dit. L'économiste, il est médusé parce qu'il a vu dans les manuels scolaires.
Mais c'est épouvantable. Vous savez, effectivement, on a une imprégnation de marxisme dans nos manuels scolaires qui remonte à de très nombreuses années. Il y a même une époque, m'avait-on dit, où pour illustrer l'économie de marché, on avait représenté la photo d'un marché aux esclaves à Rome. C'est vous dire, effectivement, jusqu'où on peut aller.
Non mais, Michel Rollier, j'entends, mais je croyais que ce temps était révolu. Moi, je me disais que c'était un truc des années 70, 80, voilà, les Mitterrand étaient passés par là. Et puis je me disais, bon, ça avait un peu changé, Rémi Barré.
On parlait de François Hollande tout à l'heure, en 2012. Ouais. La finance, c'est mon adversaire. Ouais. C'est mon ennemi.
Alors attends, c'est pas fini, hein, Michel Rollier. Écoutez, donc ça c'est toujours Yves il a un nom un peu breton, un peu compliqué. Kotlanem, voilà. Kotlanem, président du club Praxis. Alors il continue là. Il a parlé de Marx. Deuxième analyse, il parle de ségrégation scolaire. Il paraît, dit-il, alors toujours, il est très modéré le mec, il paraît excessif de parler de ségrégation scolaire comme si elle était orchestrée. Plutôt qu'opposer différentes catégories sociales, il nous semblerait plus judicieux de se pencher sur les lacunes réelles du système scolaire. Donc il dit, pourquoi est-ce que dans les manuels, on parle de ségrégation scolaire? Vous imaginez, la ségrégation, c'est un terme qui appartient à l'apartheid, à l'Afrique du Sud d'avant Mandela.
L'histoire plus sordide.
C'est
vous avez
terrible. C'est absolument terrible. Alors après, il dit. Et alors, il y a encore un autre truc, ça va vous faire bondir, mais là, on sort de le. Quoique non, on sort pas de l'économie. Il dit, la présentation du chapitre, comment analyser et expliquer les inégalités, nous semble parfois bien polémique. Pourquoi, nous dit cet économiste, dans les manuels scolaires, pourquoi parler de nouvelle domesticité pour désigner les emplois de service à domicile? Alors ça, j'ai le manuel scolaire qui parle du service à domicile, cette source d'emploi considérable, et qui parle d'une nouvelle domesticité. Mais non, mais attendez, est où? On est en Corée du Nord ou au Venezuela sous Chavez?
Écoutez, je ne sais pas, mais Dieu merci, je crois qu'une grande partie de la population française est maintenant vaccinée. Mais cela dit, dans la mesure où c'est dans les manuels de jeunes élèves, il en reste forcément des traces.
Tu m'étonnes que les mecs soient toujours en grève au lycée. Non mais imagine les cours. Attendez, les emplois de service, vous laissez pas avoir par le journal de 20h, les emplois de service, c'est des nouveaux esclaves, c'est la nouvelle des domesticités, vous allez torcher le cul des vieux, vous n'êtes pas fait pour ça, vous êtes fait pour faire la révolution. Enfin, j'exagère à peine. Un manuel scolaire normal, je sais pas, des éditions Belin, etc., qui parle de nouvelle domesticité. Non mais c'est inquiétant, excusez-moi d'être un peu redondant et d'appuyer là-dessus, mais c'est inquiétant. Non mais, c'est important, Michel Rollier, parce que là, on touche à l'idéologie française, qui est finalement une idéologie plutôt globalement anti-entreprise.
Qui est très largement anti-entreprise, et d'ailleurs qui est assez différente de celle qu'on vit sur le terrain, avec ses propres employés, avec ses collaborateurs. Mais il y a cette véritable idéologie qui est un peu une obsession de l'égalité, certainement, une imprégnation marxiste qui a été extrêmement forte en France, un ensemble de facteurs, et puis un petit peu ce goût de la France où on préfère tout ce qui est théorique à ce qui est pratique. Et c'est joli, c'est une belle théorie, marxisme.
Michel Rollier, moi qui n'ai pas fait d'études d'économie, et je me mets à la place des centaines de milliers de personnes qui sont en train de vous écouter, derrière leur radio, à la maison, au travail, dans leur voiture, chez leur amant, chez leur maîtresse, ils sont là et vous écoutent. Vous allez nous dire, une bonne fois pour toutes, ce qu'est un actionnaire et la dimension utile, voire même peut-être indispensable, de l'actionnaire pour l'économie française. Attention, parce que vous allez être iconoclaste, parce qu'il y a des millions de gens qui pensent qu'un actionnaire, je le redis, est un immonde salopard. Qu'est-ce que c'est pour vous, de l'Association nationale des sociétés par action, qu'est-ce que c'est qu'un actionnaire?
Bon, bah écoutez, d'abord, premièrement, il n'y a pas d'économie sans entreprise. Et il n'y a pas d'entreprise sans actionnaire, parce que l'actionnaire, c'est celui qui apporte, alors on va employer le mot affreux, qui apporte du capital aux entreprises, qui est la seule ressource stable, pérenne, que puisse avoir une entreprise. Il n'y a pas d'entreprise sans capital, donc pas d'entreprise sans actionnaire. Mais en même temps, c'est vrai, l'actionnaire, de ce fait, acquiert une part plus ou moins grande, qui peut être très petite, de la propriété de l'entreprise, et à ce titre, bénéficiera des dividendes, si dividendes il y a.
Alors, il y a une notion fondamentale à évoquer, c'est celle du risque. L'actionnaire, il fait un pari.
Alors, l'actionnaire fait un pari. Et encore une fois, il y a plein de formes de sociétés en France. On pense beaucoup au CAC 40, où là, il y a un pari sur l'avenir de la grande entreprise qui est cotée en bourse. Mais vous avez des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises en France. Même la plus petite PME a des actionnaires. Elle, c'est souvent un actionnaire, celui qui a créé. Mais les entreprises de taille intermédiaire ont toutes des actionnaires. Et plus l'entreprise est petite ou moyenne, d'ailleurs, plus le risque est grand. Parce que, vous savez, la compétition est difficile. Chaque entreprise a ses propres défis, a des défis à relever. Donc, oui, il y a un risque, c'est évident. C'est à presque la différence du prêteur. Le prêteur, normalement, sauf catastrophe, on lui remboursera ce qu'il a prêté.
C'est presque, je vous écoute, je me dis, c'est assez courageux, finalement, parce que je me dis, tiens, si tu avais 20 000 euros de côté, est-ce que tu les mettrais sur un compte rémunéré, ou est-ce que tu prendrais le risque de les mettre sur un projet, un gars qui viendrait te voir et qui te dirait, voilà, je monte ma boîte, Eric, tu m'as toujours fait confiance, voilà, j'ai besoin de faire un effet levier, d'avoir un peu de capital. Et c'est quand même c'est un risque, et puis c'est aussi un acte diablement courageux pour l'économie d'être un actionnaire.
Alors c'est un risque parce que toute entreprise est confrontée à des risques, comme vous le dites. C'est un acte de confiance. C'est aussi, si cet acte est bien choisi, si les choses se passent comme prévu, c'est un facteur de valoriser son épargne. C'est évident, mais il y a un risque, c'est évident.
Restez avec nous, Michel Rollier. Il y a déjà Mehdi, tiens, qui m'appelle de Montry en Seine-et-Marne, qui est pas d'accord avec nous. On écoutera ses arguments dans un petit instant. Est-ce que ça vote, mon Rémi?
Absolument. Avec le brunimétrie, je vous le rappelle, les Français doivent se réconcilier avec le profit et les actionnaires. Eh bien, vous êtes d'accord à 61%. Et bien sûr, vous continuez à voter sur le compte Twitter d'Éric ou par SMS au 6-10-71.
J'espère qu'Alexis Corbière du Front de Gauche et que Jean-Luc Mélenchon écoutent Radio Brunet aujourd'hui. Tiens, s'ils devaient l'écouter une seule fois dans leur vie, ça serait maintenant. À tout de suite.
Votre dose de liberté, c'est Radio Brunet sur RMC.
RMC, 13h-15h, c'est Radio Brunet. Radio Brunet, Éric Brunet.
Mesdames, messieurs, vous savez que vous gagnez une Citroën C1. Ça, c'est formidable, une Citroën C1. Il y en avait 10. Vous en avez déjà gagné 9. Il y en a donc une dernière qui traîne quelque part dans un département français dont nous ignorons le nom. Pour la gagner, c'est assez simple, mon Rémi.
Ah bah oui, il suffit d'envoyer RMC par SMS au 732-16. 732-16. Deux d'entre vous seront avec nous tout à l'heure, donc il leur suffira de proposer un département. Pour ne pas proposer un département qui a déjà été donné, vous allez sur rmc.fr. Et une fois que donc vous proposez votre département, on verra si vous avez gagné ou pas. Je vous rappelle juste que sur les 9 qui ont déjà été gagnés, 3 l'ont été chez toi, Eric.
Bah oui, qu'est-ce que tu veux. C'est la spirale de la win. Bon, mon invité Michel Rollier de l'Association Nationale des Sociétés par Action. Écoutez ce petit extrait de Société par Action. Ce petit extrait d'un reportage de France 2 au moment où nous prenions connaissance, nous les Français, de la totalité des dividendes qui avaient été gagnés l'année dernière par les actionnaires en France.
Des montants au sommet. En 2016, les actionnaires du CAC 40 se sont partagés près de 46 milliards d'euros de dividendes, presque un record. Sanofi a versé plus de 6 milliards et demi d'euros, 6 milliards chez Total et 5 milliards et demi chez Vivendi. En 2016, les entreprises du CAC 40 ont reversé la moitié de leurs bénéfices aux actionnaires.
Commentaire de Michel Rollier de l'Association Nationale des Sociétés par Action.
Si on considère ces 46 milliards, je pense qu'il n'y en a pas loin de la moitié qui ont été versés à des actionnaires étrangers, enfin pour être clair, pour payer les retraites des Américains, des Britanniques, quelques autres pays.
Mais ça va pas, vous êtes venu dans mon studio pour défendre l'actionnariat et vous poussez une gueulante contre les actionnaires étrangers, ça va pas?
Ça aurait été dans aux retraités français, semble-t-il, aurait été meilleur. Nos retraites ont besoin de ressources. Il y en a la moitié des 46 milliards, ou pas loin de la moitié, qui partent payer les pensions des autres. Parce qu'eux sont actionnaires, je trouve que c'est un petit peu dommage.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Développer l'actionnariat français en France, c'est ça?
Oui, mais alors je rajouterais que pas loin d'une moitié est partie vers des actionnaires étrangers, notamment les fonds de pension. il n'y a pas loin probablement d'un quart qui est parti dans les poches de l'État sous forme d'impôts. Et voilà, je crois que tout est
mais,
dit.
Mais alors, pourquoi? Je ne comprends pas. Les actionnaires français s'en vont en Belgique. On essaie de faire venir chez nous les actionnaires étrangers. On est totalement immature sur la question d'actionnariat. Finalement, ce qu'il faudrait, c'est garder nos riches chez nous afin qu'ils investissent dans nos entreprises et que ce soit des fonds d'investissement français, par exemple, qui nourrissent la France.
On a beaucoup parlé d'exil fiscal. Il est très largement lié à l'impôt sur la fortune qui, lui, est un impôt totalement confiscatoire puisque, après ISF, on peut très bien avoir un impôt qui dépasse le revenu, qui dépasse le dividende que vous recevez. Donc, effectivement, il y a eu des départs massifs. Il est très difficile d'avoir des chiffres précis. Personnellement, mon estimation est que l'ISF coûte plus cher qu'il ne rapporte.
Et c'est pas ma question. C'était bien que vous le disiez, mais ma question c'est pourquoi n'avons-nous pas d'actionnaires français ou avons-nous si peu d'actionnaires français?
Alors, il y a plusieurs raisons, mais il y en a une première qui est clairement la fiscalité, qui est totalement, totalement décalée par rapport aux pays étrangers. Vous voyez, là, dans ça, on a fait des comparaisons, non pas, on aime bien comparer avec l'Allemagne, on l'a fait avec 12 pays européens. Il n'y a pas un pays qui se rapproche de la France dans ce domaine. Pas un seul.
C'est-à-dire, pas un pays qui fait fuir
à ce point-là.
Mais alors, attendez, ça veut dire que quand on est Montebourg ou un autre et qu'on plaide pour le Made in France, parce qu'il est très à la mode en ce moment, le Made in France, il faut plaider aussi pour le retour des actionnaires français qui nourrissent l'économie française finalement. Donc ça veut dire qu'il faut garder nos actionnaires, ça veut dire qu'il faut protéger nos actionnaires, ça veut dire qu'il faut les supplier de rester et de pas aller placer leur argent je ne sais où.
Les supplier, ils n'exagèrent peut-être pas, mais disons simplement
les supplier, les inciter fiscalement.
C'est-à-dire simplement, vous savez, payer 30-40% des revenus n'est pas en soi choquant, mais aujourd'hui on est entre 60 et 120%, si vous voulez. Alors là, mettez-vous à la place de quelqu'un qui a des impôts qui dépassent son revenu, que fait-il?
Dites-moi, dans les sociétés anglo-saxonnes, je sais pas, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Angleterre, qu'un actionnaire anglais, par exemple, gagne des dividendes considérables, des dizaines de millions, des centaines de millions d'euros, ça choque?
Non, ça choque beaucoup moins parce que les anglo-saxons ont une relation différente avec l'argent. Mais il ne s'agit pas de parler de centaines de millions. Vous savez, la plupart des actionnaires qui sont partis étaient souvent des gens qui avaient certainement de la fortune. Sinon, ils ne seraient pas partis. Mais enfin, ce n'étaient pas des milliardaires. Et on en est très très loin. Mais encore une fois, quand on vous met en face d'une situation où l'essentiel de vos revenus sont payés sous forme d'impôts, vous n'avez pas beaucoup d'alternatives, et en partant, vous privez la France des impôts.
Mais alors pourquoi il y a des étrangers qui viennent investir dans des entreprises dans lesquelles les Français n'investissent plus?
Alors de deux choses.
S'il y a des fonds d'investissement, s'il y a des fonds de pension américains qui investissent dans nos boîtes alors que les Français n'investissent pas, il y a un problème.
Non, parce
qu'elles étaient rentables. Si les fonds de pension y viennent.
Mais nos entreprises sont très rentables et il faut s'en réjouir. On a de magnifiques entreprises en France, celles du CAC 40, mais aussi tout ce tissu de TI. Simplement, si vous n'êtes pas résident français, vous n'êtes pas soumis à la taxation française. Ouais. Le fonds de pension des enseignants de la Californie, par exemple, il paye ni l'ISF, ni l'impôt sur le revenu français, ni la cotisation sociale généralisée.
D'accord. Mehdi m'appelle, donc, de Seine-et-Marne. On est à Montreuil. Mehdi a 37 ans, mon cher Mehdi. Bonjour.
Bonjour, Eric.
Alors, comment est-ce que vous votez? Les Français doivent se réconcilier avec le profit et avec les actionnaires, Mehdi.
Je pense que c'est complètement faux ce que vous dites. Votre sondage, il le démontre. Les Français, ils sont pas fâchés avec les actionnaires. Les Français, ils sont fâchés avec les entreprises qui versent des millions de dividendes, des milliards, et qui licencient des gens parce qu'ils n'en ont pas versé assez des milliards, parce qu'ils n'en ont pas gagné assez des milliards. Vous voyez bien, même vous parlez des manuels scolaires, l'école peut nous dire quelque chose. Vous parlez de François Hollande qui dit qu'il veut combattre les actionnaires, très bien, il dit ce qu'il veut. Mais vous avez bien compris que les Français, ils sont pas dupes, on n'est pas des abrutis. Vous voulez faire passer absolument les Français pour des révolutionnaires, pour des rouges à fond, pour... Non, les Français, ils sont juste pas d'accord avec un salarié qui travaille chez Peugeot, mais qui peut pas se payer une Peugeot. Voilà, il est là le problème. Et qui verse des dividendes à les actionnaires. C'est simplement ça le problème des Français. C'est pas que... On s'en fout, nous, que les actionnaires, ils se payent 1, 2, 3, 4 piscines. Ils peuvent s'en payer 10 des piscines s'ils veulent. Mais ce qu'on veut, c'est vivre de notre travail et que... Gaver des étrangers, comme vous dites, on gave des étrangers, et à côté de ça, nous, on crève la dalle, ça crève la dalle, alors qu'on travaille, c'est pas normal, c'est tout. Et on voit bien que ce système capitaliste, qu'il soit à fond poussé à 100% comme aux États-Unis, ou qu'il soit un peu modéré comme en France, parce qu'on a des aides sociales et tout tintin, ça marche pas. Et donc, il y a bien quelque chose qu'il faut faire, il y a bien quelque chose qu'il faut changer. Et je pense que ce système-là d'action, il est mauvais, il est néfaste, parce que on récupère pas le fruit de notre travail. Voilà, on transpire, on travaille toute la semaine, et on récupère pas le fruit de notre travail.
Transpire, c'est vrai qu'on transpire, mais on peut aussi envisager les choses sous un autre angle et considérer que sur la durée moyenne annualisée du travail, on est ceux qui transpireront le moins du monde, puisqu'avec
mais ça c'est parce que vous avez pas le même travail que le trois quarts.
Non, mais je vous parle pas. Non, mais là, oublions mon cas. Non, mais Mehdi, oublions votre cas et le mien une seconde et parlons des statistiques nationales. On va pas, vous allez pas me la jouer. Vous, Brunet, vous êtes derrière un micro.
Monsieur Brunet, je travaille dans le commerce, d'accord, et je les vois, les Français, transpirer. Je les vois se lever à 4 heures du matin pour travailler.
Non, mais d'accord, mais Mehdi, je sais qu'il y a des gens formidables. Mais non, mais qu'une réalité, c'est les statistiques. Après, vous pouvez me dire n'importe quoi.
Bon, qu'est-ce qui donnait votre sondage?
C'est pas un sondage, c'est les statistiques officielles qui disent que sur la durée annualisée du temps de travail, sur les 200 pays qu'il y a dans le monde, la France est pratiquement le pays, ou en tout cas dans un petit groupe de 2-3 pays, où la durée moyenne du temps de travail sur l'année est la plus faible. Et qu'un salarié, vous prenez un salarié à 2000 euros brut, par exemple, qui travaille, je ne sais où, moi, dans une activité industrielle, oui, automobile, par exemple, eh bien, il va travailler 6 semaines de moins en France qu'un Anglais, payé même salaire, ou même 8 semaines de moins qu'un Allemand. Je vous parle pas d'un Bolivien, là. Hein.
Vous pensez que c'est vulgaire, vous, ça?
Non,
vous trouvez ça vulgaire?
Mais j'ai jamais dit que c'était
vulgaire. Qu'un Français, il peut s'occuper 6 semaines par an de ses enfants?
Mais non, mais pas du tout. On parle de l'entreprise et de la compétitivité.
Vous dites sans actionnaire, pas d'entreprise. Sans salarié, pas d'entreprise. Moi, je vous dis le contraire, vous voyez. Je vous donne une autre façon de voir les choses. Maintenant, c'est à vous de voir. Mais sans actionnaire, pas d'entreprise. Sans salarié, pas d'entreprise. Et puis, si les entreprises, elles se mettaient à fabriquer des choses plutôt qu'à acheter du Made in China et nous le revendre, on n'aurait peut-être pas besoin des actionnaires.
On n'a peut-être pas besoin des entreprises, mais s'il y a des entreprises, il y a forcément un actionnaire. Puisque l'entreprise, c'est vous, demain, Mehdi. Vous dites, tiens, je veux monter une entreprise qui fabrique des micros pour la radio. Vous allez voir des gens. Votre banque va vous prêter peut-être un petit peu, mais ça suffira pas. Vous allez voir des copains qui vont vous prêter 10, 20, 30 000 euros. Ça va devenir des actionnaires de votre entreprise parce que vous allez leur dire, dans 5 ans, les cocos, si je dégage des bénéfices, eh bien, vous aurez 5% de ma boîte. Ce sont des actionnaires, elles sont pas des salopards, ce sont pas des fumiers, ce sont pas des ordures,
pas
ce sont tout. Vos amis qui vous font confiance, Mehdi.
Pas du
qui
tout.
Qui vous font confiance.
Mais je suis 100% d'accord avec vous.
Eh ben alors, on est d'accord.
Sauf que votre intervenant a dit le contraire il n'y a pas 10 minutes, les dividendes servaient à rémunérer des actionnaires étrangers et pas des retraites françaises. Et à cause de ça, je vais être avalé à la fin de ma carrière.
Je n'ai pas dit que tous les dividendes servaient pour des actionnaires étrangers, j'ai dit que les dividendes du CAC 40 étaient largement tournés vers les étrangers de l'ordre... Ah bon.
Colette Neuville est au téléphone. Bonjour Colette Neuville.
Oui, bonjour.
Vous êtes présidente de l'association de défense des actionnaires minoritaires. Ben oui, parce qu'il y a des actionnaires majoritaires dans les entreprises, petites ou grosses. Et puis il y a les minoritaires qui ont peut-être un peu moins de droits que les majoritaires. Mais ils sont importants aussi, les minoritaires, Colette Neuville.
Tout à fait. D'abord parce que, étant donné qu'ils sont actionnaires, ils apportent de l'argent aux entreprises. Et ça, je voudrais répondre à votre interlocuteur. Les entreprises, elles ont bien sûr besoin de salariés, mais elles ont aussi besoin d'argent pour investir, pour avoir le matériel, les actifs qui vont permettre aux salariés de travailler. Je pense qu'il faut cesser d'opposer, comme on le fait depuis plus d'un siècle avec toutes les doctrines marxistes et celles qui ont suivi, il faut cesser d'opposer le capital et le travail. On ne peut pas faire d'entreprise sans capitaux et on ne peut pas non plus sans salariés. Les deux vont ensemble.
Mais pourquoi? Mais pourtant en France,
Colette, il faut qu'ils s'entendent, il faut qu'ils travaillent ensemble.
Pourtant, on ne fait que ça en France. Je lisais tout à l'heure à l'antenne les contenus des livres qui présentent aux étudiants, enfin aux lycéens de seconde, de première et de terminale, l'économie et l'entreprise. C'est assez saisissant. Hein, on est dans la lutte des classes. Hein.
Oui, mais non, mais parce que il se trouve que bon nombre d'enseignants continuent à véhiculer ces doctrines qui cultive la fracture finalement entre ceux qui apportent le capital et ceux qui apportent en fait l'argent, ceux qui apportent l'argent nécessaire pour investir et ceux qui apportent leur force de travail. Il faut arriver à réconcilier les deux et je pense qu'un des bons moyens c'est de développer l'actionnariat salarié, faire que ceux qui travaillent dans l'entreprise soient en même temps propriétaires plus ou moins de l'entreprise suivant les cas.
Ouais. Alors, mais il faut aussi, parce qu'attendez, Colette, je vous entends, mais on est quand même dans un pays où on aime bien tout ce qui est petit et mignon, comme si la vertu était petite. C'est-à-dire que chez nous, parce que là vous avez un discours en disant l'actionnariat salarié, bon bah finalement c'est l'actionnariat à visage humain, à taille humaine, mais sous-entendant par là que les gros actionnaires, ceux qui sont actionnaires dans des quantités importantes de géants, même du CAC 40, sont forcément pas vertueux, sont forcément des salauds. Or, nous mourons, laissez-moi finir, Colette, nous mourons justement d'avoir moins de gros actionnaires pour nos gros champions nationaux. Nous avons besoin aussi de gros actionnaires.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut des actionnaires plus gros et plus stables, qui aient une vision à long terme de l'entreprise et qui l'accompagnent sur le long terme dans sa stratégie. C'est bien sûr que nous manquons d'actionnaires stables et plus gros, mais ces actionnaires-là, ce sont par exemple les fonds de pension étrangers, mais chez nous, nous n'avons pas de fonds. Nous avons fait le choix de ne pas avoir de fonds de pension, ce qui a été probablement une très grave erreur.
Erreur. Il faut des fonds de pension françaises dans une économie comme la nôtre.
Qui soient attachés aux entreprises et qui déterminent avec ces entreprises des stratégies à long terme, qui respectent à la fois leurs actionnaires, l'environnement, etc. Tout ça, c'est un tout. Alors nous avons beaucoup d'actionnaires étrangers. Pourquoi ? Parce que la nature a horreur du vide et qu'à partir du moment où il n'y a pas de fonds français qui occupent la place, le capital, évidemment, se trouve... finalement partir aux mains de ceux qui veulent placer leur argent dans des entreprises.
Vous voyez, je vais vous dire, Colette, je pense que notre petite demi-heure d'émission a été une émission de salubrité publique. Je m'en veux de ne pas avoir traité ce sujet avant. Quand je pense à quel point le Made in France a occupé le devant de la scène des débats politiques depuis des mois, personne, j'ai jamais vu ce débat dans un média d'ampleur nationale. J'ai jamais vu David Pujadas dans l'émission politique de France 2 parler de ce sujet capital.
Vous avez complètement raison. Je voudrais ajouter, parce que c'est vrai que le nombre des actionnaires, même les petits, ont beaucoup diminué en France depuis quelques années. Bien sûr, il y a la fiscalité, mais il y a aussi ce que vous êtes en train de dire, à savoir qu'il n'y a pas de considération, on peut même dire le contraire, il y a une espèce de campagne anti-actionnaire, c'est presque une injure de dire qu'on est actionnaire. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui ont envie de dire qu'ils sont actionnaires ? C'est un terme injurieux. Moi, je dis le contraire. Je pense qu'un actionnaire, c'est un bon citoyen, parce que c'est quelqu'un qui place son épargne et qui fait confiance aux entreprises pour créer des emplois, pour créer français, pour développer finalement
dans la hiérarchie des horreurs, c'est entre lépreux et collabo, tu vois. T'as collabo, actionnaire, lépreux, tu vois. On est à peu près dans ce système de valeurs épouvantable, bien évidemment. J'exagère, quoique je ne suis pas certain d'exagérer. Merci à Colette Neuville, présidente de l'ADAM, Association de Défense des Actionnaires Minoritaires. Merci également à Michel Rollier, président du conseil d'administration de l'Association Nationale des Sociétés par Action. Voilà, et c'est très gentil d'être venu avec nous, et ça me donne vraiment envie de traiter plus à fond ce sujet, quitte à faire une émission plus longue dans les prochains jours, avec des politiques peut-être qu'on invitera. Merci beaucoup, Michel Rollier.
Je vous en prie, merci bien.
Résultat du Brunet-Métrie, Manon, s'il te plaît.
Eh bien, résultat, vous êtes 61% à penser que les Français doivent se réconcilier
la
gorge sèche.
L'émotion.
Trop ému de te parler, tu sais bien. Vous êtes 61% à penser que les Français doivent se réconcilier avec les profits et les actionnaires.
3 minutes de gloire, mon Rémi.
Exactement, on va retrouver Corentin et Emouvio, première agence spécialisée dans les voyages et les sorties mystères, destination, parcours. Tout est tenu secret jusqu'à la dernière minute. Tu découvres au fur et à mesure de ton voyage.
C'est pas mal. C'est pour mon anniversaire surprise.
Bah oui.
Vous me préparez un truc, mes salauds. Vous me préparez un truc.
Ouais.
RMC, Radio Brunet. 3 minutes de gloire.
Bonjour, Corentin, 30 ans.
Bonjour.
Alors, c'est quoi cette histoire d'Emouvio, là ? Votre boîte, ça s'écrit comment déjà ? E-M
E-M-O-O-V-I-O.
Bon, vous faites quoi ?
Alors c'est pour représenter l'émotion, le mouvement et le voyage. Nous, notre idée, ça a été de démocratiser le voyage en terre inconnue. Donc c'est comme l'émission de télé Rendez-vous en terre inconnue, en fait. On a voulu proposer au plus grand nombre.
D'accord.
Donc on fait partir les gens sans leur dire où ils vont aller et ils découvrent au fur et à mesure les surprises.
Ah d'accord, donc pour l'anniversaire de ma femme, vous pouvez lui faire un voyage en terre inconnue.
Voilà. Alors, ça peut
comme c'est moi qui paie, j'imagine que moi, je saurais où est la terre inconnue, moi.
Alors pas forcément, parce que l'idée c'est que vous soyez tous les deux dans la surprise pour découvrir au fur et à mesure ensemble ce que vous allez faire.
Ouais.
Parce que c'est plus sympa que plutôt qu'il y en ait un qui soit dans l'attente de savoir si ça va plaire à l'autre, etc.
Dites-moi, alors, pour les petits budgets, est-ce que vous faites un voyage en terre inconnue, attention, dans la Nièvre?
Dans la Nièvre, j'ai jamais rien organisé, mais dans la Drôme, par exemple, on organise, en Bourgogne, dans les Pays de la Loire, dans le Sud-Ouest, un peu partout en France, sans transport, donc à quelques heures de route, c'est possible.
Alors, comment ça se passe? Donc, allô, bonjour monsieur, je voudrais faire un truc formidable pour les 30 ans de ma femme. Voilà, très bien. Alors, vous demandez l'enveloppe. On a 10 jours. Donc, vous demandez l'enveloppe et vous pouvez organiser un truc, mais à Oulan-Bator, en Mongolie, vous pouvez, en Afrique.
Ouais, on a un éventail assez large. En fait, on a commencé il y a 3 ans sur les week-ends en France, en Europe et sur les sorties de quelques heures. Et on s'est étendu au fur et à mesure à des voyages plus lointains avec des partenaires locaux. Parce qu'on nous demandait en fait vraiment de partir loin. Et donc vous nous dites vos envies pour le séjour, votre budget, vos contraintes, vos dates, et en fonction de ça, on vous fait une proposition personnalisée.
Mais alors quand je vais prendre l'avion, quand même, je vois bien la destination. Il y a des histoires de passeport, de billets, etc.
Alors en fait, vous recevez une semaine avant un carnet de voyage mystère avec un planning, et on vous dit d'être à l'aéroport à 18h vendredi soir. Et là, vous ouvrez l'indice numéro 1 qui est dans votre enveloppe et vous découvrez la destination.
D'accord.
Et ensuite, vous avez un indice numéro 2, 3, 4, etc.
D'accord. Et vous êtes arrivé d'avoir des gens qui disent « Non, finalement, on veut pas du tout aller en Syrie, monsieur. »
Oui, ils nous l'ont dit, mais avant, en fait. Une fois que ça a été validé, on les a pas fait partir en Syrie parce qu'on avait...
Non, mais sérieusement, parce que c'est nul comme exemple. Mais, il y a des gens qui vous disent « Finalement, vous m'avez organisé un truc en Suède, je préférais aller au soleil. »
Non, parce que encore une fois, ils nous l'ont dit avant, et en fait, on n'a jamais eu de mauvaise surprise sur la destination.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a réussi à cadrer les choses en amont avec les clients.
Intéressant. Donc, pour entrer en contact avec vous, c'est emovio, E-M-O-O-V-I-O,
.com, exactement, ou par téléphone.
Merci Corentin, merci beaucoup.
Merci à vous, bonne journée.
Bonne journée. Amusant, intéressant. Allez, on joue, mesdames, messieurs, pour gagner une Citroën C1. On va retrouver André, tiens, qui est en Seine-et-Marne. Mon cher André, bonjour.
Oui, bonjour, Bernard.
Ouais. Appelle-moi Bernard, je vais t'appeler. Je vais t'appeler comment? Kevin, moi.
Excusez-moi.
Bon. André, comment je m'appelle, André? Comment je m'appelle?
Brunet.
Ouais. Quel est mon prénom, André?
Philippe.
Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ça.
C'est pas ça non plus.
Vas-y, André, tu gagnes pas de voiture si tu me donnes pas mon prénom.
Dernière chance.
Dernière chance. André, comment je m'appelle? Top. Qu'est-ce que je fais, Roselyne? Je m'appelle Eric, mon André. Voilà, je vais arrêter d'être dur avec toi.
Ah oui.
Bon, allez, alors, donne-moi le nom d'un département.
Le 8, les Ardennes.
Les Ardennes. Mon cher André, j'ouvre l'enveloppe et je t'annonce. Je t'annonce que tu as perdu, hélas, mon cher André. Tu as perdu, hélas. Mais comme tu as été sympa, je t'offre un bar tabac et un yacht.
Sympa.
Et un yacht. Et
tu l'appelleras chez Bernard Philippe.
Chez Bernard Philippe. Salut, André. Non, attends, mais non, André, c'est une blague. Hein. Françoise, bonjour, Françoise.
Bonjour, Eric.
Ah, ça commence bien, bon, avec Françoise.
Bon, déjà mieux.
Bon, Françoise, vous allez bien?
Oui, ça va.
Bon.
Et vous?
Je suis en pleine forme. Et je vous suggère de me donner le nom d'un département où pourrait se cacher cette Citroën C1.
D'accord. Alors, la Sarthe.
La Sarthe, voilà. Aucun lien avec l'actualité.
Est-ce qu'elle connaît Pénélope?
Non, t'arrêtes ces petites vannes à deux balles, s'il te plaît. On est Radio Brunet, on n'est pas une radio locale. Perdu, Françoise, je suis désolé. Je suis désolé.
C'est pas grave. À la prochaine fois.
Vous pouvez rejouer chez Roselyne, hein, quoi qu'il en soit.
En envoyant RMC par SMS au 732-16.
Roselyne, de quoi parlons-nous dans 100% Bachelot?
Coup de gueule énorme, j'en ai marre qu'on parle que de foot quand on parle de sport. Avec nous handballeurs, on n'en parle pas assez, on va grogner dans 100% Bachelot, ça va casser du bois.
Ça va casser du bois, ras-le-bol de la dictature du football. Et le curling, tu parles pas du curling, tu vas parler du curling. Tu n'avais pas prévu?
J'ai pas prévu de parler du curling.
Allez, rendez-vous avec Roselyne dans quelques instants.
Et Eric, on se retrouve demain dès 13h, Radio Brunet.